Demain, Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manirakiza à la présentation de cette édition du mardi 27 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Tête à tête à Abidjan entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo.
La rencontre entre Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara parle de la décrispation de la société. Décrispation. La décrispation est différente de la réconciliation nationale.
7 militaires et 15 rebelles des ADF tués en 3 jours de combat dans le nord-est de la RDC. En Tunisie, le principal parti au Parlement réclame des élections anticipées. Au Bénin, l'administration publique secouée par plusieurs scandales financiers.
Tant que les médias qui font des investigations n'auront pas un accès libre à l'information et qu'ils seront sous la poursuite de recettes de documents administratifs, la lutte contre la corruption ne peut pas marcher.
Dans 10 minutes, vous suivrez également notre journal des JO de Tokyo. Mais d'abord, les nouvelles du monde. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu ce soir son prédécesseur Laurent Gbagbo pour la première fois depuis la violente crise post-électorale née de la présidentielle de 2010. La rencontre s'est tenue au palais présidentiel à Abidjan à 17h, heure locale. Bagasikoura pour les détails.
Ils se sont vus pour la première fois depuis 2010. Comment vas-tu Laurent? Content de te voir, a lancé M. Ouattara, M. Gbagbo, en l'accueillant ce soir sur le perron du palais présidentiel à Abidjan. Après un entretien en tête-à-tête d'une trentaine de minutes, ils doivent s'exprimer devant la presse. Leur dernière rencontre remonte au 25 novembre 2010, date à laquelle ils s'étaient affrontés dans un débat télévisé quelques jours avant le second tour de la présidentielle. Cette élection avait débouché sur une grave crise faisant 3000 morts, née du refus de M. Gbagbo de reconnaître sa défaite. Ce dernier avait ensuite été arrêté et poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Mais finalement acquitté en mars par la justice internationale, il a pu faire son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier grâce au feu vert du président Ouattara. Depuis, Laurent Gbagbo s'est toutefois d'ores et déjà placé en opposant au chef de l'État, en l'appelant notamment à respecter les textes en référence à sa réélection en 2020 pour un troisième mandat controversé au cours d'une présidentielle boycottée par l'opposition qui jugeait ce nouveau mandat inconstitutionnel.
5 militaires et un civil camerounais ont été tués lundi dans une attaque de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, où les djihadistes multiplient les exactions. Selon un communiqué du ministère de la Défense, lu mardi à la radio d'État, les troupes restent en alerte maximale dans toute la région de l'extrême nord et au-delà des frontières afin de prévenir de nouveaux assauts éventuels, poursuit le communiqué. Un casque bleu a été blessé, un membre des forces armées centrafricaines a été tué lundi soir dans une attaque lancée par des rebelles en Centrafrique, à 900 km à l'est de la capitale Bangui, ont annoncé mardi l'ONU et des sources sécuritaires. En République démocratique du Congo, 7 militaires et 15 rebelles du groupe Force démocratique alliée ADF ont été tués en 3 jours de combat dans le nord-est, selon un bilan donné ce mardi par l'armée congolaise. Claire Morisbourg.
Le bilan a été confirmé par le lieutenant-général Johnny Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri. Dans des offensives engagées depuis samedi contre des positions des ADF dans la région de Tchabi, nous avons perdu 7 soldats et du côté ADF, 15 rebelles ont été neutralisés, a-t-il dit. L'officier a également confirmé la libération de 150 otages qui servaient de boucliers humains aux ADF lors des combats qui s'étaient déroulés du 18 au 20 juillet dans les localités de Boga et Tchabi, dans le territoire d'Irumu, à la frontière avec la province du Nord Kivu. Fin mai, des autorités ont accusé les rebelles ADF d'avoir tué au moins 50 civils dans les villages de Boga et Tchabi, où ils avaient également attaqué un camp de réfugiés. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont placées depuis le 6 mai sous état de siège afin de lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police.
En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale formation politique au Parlement, demande des élections anticipées après le coup de force du président Kais Saied qui a notamment suspendu l'Assemblée nationale. Jacques Aristide.
Après avoir fustigé un coup d'État contre la Révolution et la Constitution, Ennahda indique ce mardi que pour le bien de la vie démocratique, il est prêt à la tenue d'élections législatives et présidentielles anticipées simultanées. Cela afin de garantir la protection du processus démocratique et d'éviter que tout retard ne serve de prétexte au maintien d'un régime autocratique, ajoute le parti. En moins de deux jours, le chef de l'État a ordonné la suspension des travaux du Parlement. Pour un mois, Kais Saied a également limogé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et s'est octroyé le pouvoir exécutif. Ces décisions, prises au moment où le pays est frappé de plein fouet par une crise économique et sociale accentuée par la pandémie de Covid, ont provoqué des inquiétudes au sein de la communauté internationale, en particulier à Washington, Paris et Bruxelles. L'Union européenne appelle au rétablissement de la stabilité institutionnelle, l'ancrage démocratique du pays, le respect de l'état de droit, de la constitution et du cadre législatif doivent être préservés tout en restant à l'écoute des volontés et aspirations du peuple tunisien, a averti aujourd'hui Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne.
Plus de 1200 migrants ouest-africains, dont des Nigériens, ont été expulsés par l'Algérie vers le Niger depuis l'annonce de la réouverture de la frontière terrestre entre les deux pays le 14 juillet, a indiqué l'Organisation internationale des migrations, OIM. Quelques 3000 Éthiopiens ont traversé la frontière lundi soir vers le Soudan en provenance de la région éthiopienne d'Amara, c'est dans le nord, voisine de la région en guerre du Tigré, selon le gouvernement soudanais. Dimanche, le président de la Mara, Agenyewu Tshisekedi, a appelé tous ses citoyens armés à se mobiliser contre les rebelles du Tigré voisin, évoquant une campagne de survie pour la province. Les deux régions sont impliquées dans un conflit territorial vieux de plusieurs décennies et animé par les affrontements au Tigré depuis fin 2020.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, ouverture des travaux d'une commission d'enquête parlementaire sur l'attaque sur le Capitole le 6 janvier 2020. Une attaque coordonnée contre la démocratie, une bataille moyenâgeuse. Élus et témoins ont rappelé mardi la gravité de cet assaut. Le coup de force et de partisans de Donald Trump visant le siège du Congrès visait à faire dérailler la démocratie américaine, a rappelé d'emblée l'élu démocrate Benny Thompson, qui dirige ses travaux. Cette commission, qui suscite de vives controverses à Washington, aura le pouvoir de réclamer des documents et de convoquer des témoins. Ici aux États-Unis, des policiers ont rappelé mardi la violence de l'assaut du 6 janvier 2020 sur le Capitole, à l'ouverture d'une enquête parlementaire qui divise Washington. Ils ont décrit avec émotion la violence physique et verbale de cet assaut, racontant à une commission d'enquête du Congrès comment ils ont craint pour leur vie face aux partisans de l'ex-président Donald Trump. Human Rights Watch accuse Israël et le mouvement armé palestinien Hamas de crimes de guerre présumés lors des affrontements en mai dans et à partir de la bande de Gaza. Environ 260 Palestiniens et 13 Israéliens ont péri en 11 jours de combat. Les détails avec Nani Tetalani.
Human Rights Watch affirme avoir enquêté sur 3 frappes aériennes israéliennes ayant tué 62 civils palestiniens. Selon l'ONG, l'armée israélienne dit avoir visé des tunnels et un centre de commandement souterrain utilisé par les groupes armés, mais n'a présenté aucun détail pour étayer cette affirmation. Les groupes armés palestiniens ont pour leur part tiré plus de 4300 roquettes et mortiers vers Israël et perpétré des attaques illégales selon les données israéliennes publiées dans un rapport séparé. Human Rights Watch dit regretter que ces chercheurs internationaux aient été empêchés par Israël d'accéder à la bande de Gaza. Israël et le Hamas n'ont pas encore réagi à l'enquête de l'organisation qui conclut que la CPI devrait diligenter une enquête sur ces crimes de guerre présumés. Cette cour avait déjà annoncé en début d'année avoir ouvert une enquête sur des crimes présumés commis dans les territoires palestiniens depuis 2014, une initiative rejetée par Israël mais saluée par les Palestiniens. En avril, l'ONG avait qualifié d'apartheid la politique d'Israël envers les Arabes sur son sol et des Palestiniens dans les territoires occupés, provoquant la colère des autorités israéliennes.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Get into the game. C'est le moment de suivre notre journal des Jeux Olympiques de Tokyo avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les nouvelles de médailles se font rares chez les Africains aux Jeux Olympiques, même si la Côte d'Ivoire, l'Égypte et la Tunisie se sont illustrées. Bagassi Koura.
Oui, en taekwondo, l'Ivoirienne Ruth Marie-Christelle Gbabi, médaillée de bronze à Rio en 2016, a décroché de nouveau le bronze grâce à sa victoire 12-8 devant la Brésilienne Milena Titonelli chez les moins de 67 kg. Dans cette même catégorie, médaille de bronze également pour l'Égyptienne Hedaya Waba, toujours en taekwondo, mais cette fois-ci chez les hommes, la grosse déception est venue de l'Ivoirien Cheikh Salah Cissé, champion olympique en titre. Il a été sorti dès les huitièmes de finale par le Marocain Hachaf Mahboubi dans la catégorie des moins de 80 kg. Bonne nouvelle par contre chez les moins de 58 kg, messieurs. Le Tunisien Mohamed Halil Yendoubi, 19 ans, a remporté la médaille d'argent. Il a été battu en finale par l'Italien Vito Del Aquila. La Tunisie compte deux médailles après l'or enlevé par Ahmed Ayoub Hafnaoui à la surprise générale au 400 mètres nage libre. En judo, la Française d'origine togolaise Clarisse Agbenyenou arrache l'or dans sa catégorie des moins de 63 kg. Déjà 5 fois championne du monde et 5 fois championne d'Europe, Agbenyenou a défait la Slovène Tina Trstenjak qui l'avait battue en finale des JO 2016 à Rio.
Merci, Bagassi. Des nouvelles du tournoi de football féminin. La Zambie, seule représentante africaine dans le foot féminin, est éliminée et les Américaines se sont qualifiées pour les quarts de finale sans convaincre. Nanit Talani.
Pour leur troisième sortie dans le tournoi de foot féminin, les Zambiennes ont été battues 1-0 par les Brésiliennes qui s'offrent du même coup la deuxième place du groupe F qualificative pour les quarts de finale. La Zambie est out, elle qui a été battue 10-3 par les Pays-Bas lors de sa première sortie et qui a fait match nul contre la Chine. Dans le groupe G, les États-Unis se sont qualifiés pour les quarts de finale après leur match nul 0-0 face à l'Australie. Les Américaines ont terminé à la deuxième place de leur groupe. C'est la première fois qu'elles ne finissent pas une phase de groupe à la première place depuis les JO 1996 d'Atlanta. En quart de finale vendredi, Team USA, vainqueur de la dernière Coupe du Monde et médaillé d'or à 4 reprises, sera opposé au Brésil ou aux Pays-Bas.
Merci, Nanit. Elle est tchadienne et entre en compétition demain dans la discipline de judo dames. La judokate Demo Mendeloum est la première tchadienne à se qualifier pour les Jeux Olympiques en gagnant des points, se classant 48e mondial dans la catégorie de moins de 70 kilos. Demo Mendeloum a été médaillée de bronze au championnat d'Afrique 2019 et aux Jeux Africains de 2019. En N'Djamena, sa ville natale, les Tchadiens et sa famille sont déjà fiers de sa présence à Tokyo. Zakaria Hassan Abrahim est son époux.
C'est vraiment chaleureux de l'avoir réalisé le rêve qu'elle voulait depuis son enfance. Parce que participer aux Jeux Olympiques, c'est le rêve de tous les sportifs en fait. Et voilà aujourd'hui, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées pendant les préparatifs, elle a su remonter le moral et participer.
Paul Begui, le père des Demo, lui, espère voir sa fille remporter une médaille pour le Tchad.
On prie pour que Dieu la propulse jusqu'à l'autre au final et remporter un trophée pour le Tchad. Et ça serait un grand plaisir, c'est un honneur pour la patrie.
Paul Begui, père de la judokate tchadienne Demo Mendeloum, qui entre en compétition demain face à l'Ouzbek Matliyasova Gounoussa. La déception du jour est nippone. Elle revêt d'offrir au Japon sa première médaille d'or olympique en tennis. Mais Naomi Osaka s'est arrêtée dès les huitièmes de finale. Chaque défaite me déçoit, mais celle-ci fait plus mal que les autres, a réagi la japonaise après avoir été battue par la tchèque Markéta Vandrousova 6-1, 6-4. C'est ici que se referme cette page spéciale consacrée aux Jeux Olympiques.
C'était notre journal des JO de Tokyo. Merci à Kuba. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Magnalisa de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo se sont rencontrés ce mardi, une première depuis leur duel à l'élection de 2010 qui avait débouché sur une crise meurtrière. Ce face-à-face a eu lieu au palais présidentiel à Abidjan et constitue un geste de plus vers l'apaisement de la vie politique en Côte d'Ivoire. L'histoire entre les deux hommes reste intimement marquée par les violences post-électorales de 2010-2011. Pour en parler, John Lindon a joint à Abidjan André Silver Conan, journaliste et analyste politique.
C'est une rencontre qui intervient malheureusement 10 ans, avec 10 ans de retard, puisque cette rencontre avait lieu après les premières crises de du contexte électoral de 2010, sans doute qu'on n'aurait pas eu toute cette préparation avec des filles, on serait le temps. Une chose est certaine, c'est que cette rencontre peut déjà pouvoir participer de la décrispation de la scène politique en Côte d'Ivoire.
Est-ce que cette rencontre va apporter quelque chose dans le processus de réconciliation dont on parle? Et ce processus de réconciliation est-il une affaire de Bédié, Gbagbo, Ouattara ou du peuple?
La question est très importante parce qu'elle rejoint ma position sur la réconciliation nationale. La première chose à savoir, c'est que la rencontre entre Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara participera de la décrispation de la scène politique. Décrispation. La décrispation est différente de la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, de mon point de vue, c'est mon avis, est trompé, mais en tout cas, c'est une position radicale que je tiens depuis plusieurs mois, plusieurs années. La réconciliation nationale viendra de la vérité de la justice sur les grands crimes qui ont divisé les Ivoiriens. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont divisé les personnalités politiques, mais qui ont divisé les Ivoiriens. Il y a donc une nuance entre la décrispation. La déclaration quotidienne deviendra de la rencontre entre différentes acteurs politiques et la réconciliation nationale des Ivoiriens qui deviendra de la vérité sur les crimes qui sont dirigés des pouvoirs.
Dans le même processus, où en est-on avec le dossier sur la condamnation de M. Gbagbo à 20 ans de prison pour le braquage de la BCAO pendant les événements de
2010-2011? As-tu compris? M. Gbagbo demeure condamné par contumace. Donc, logiquement, la justice ivoirienne devra se réfugier depuis qu'il est de retour en Côte d'Ivoire. Là, ce n'est pas le cas. Il n'a non plus pas été exécuté par le président du pacte présidentiel. Et bien, c'est le statu quo en ville. Et c'est sans fait des arrangements doublés dont on continue les dirigeants politiques en Côte d'Ivoire. Et puis, malheureusement,
André Silver Conan, journaliste et analyste politique en Côte d'Ivoire, joint à Abidjan quelques heures avant la rencontre Ouattara Gbagbo.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, ces cinq dernières années, l'administration publique a été secouée par plusieurs scandales financiers. Des cadres de sociétés stratégiques ont réussi à détourner des milliards de francs CFA. La dernière affaire en date est celle de l'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres. La population appelle le gouvernement à auditer les sociétés d'État. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
En 2016, lorsqu'il prêtait serment pour son premier mandat, Patrice Talon avait promis s'attaquer à la corruption qu'il définissait alors comme un fléau destructeur de l'économie béninoise. Mais en quelques mois de gestion, des scandales de corruption se sont multipliés. Le dernier en date fait état du détournement de 13 milliards de francs CFA, suffisant pour convaincre les Béninois que le mal est profond. Habib Dissi est un enseignant chercheur.
Et moi, ce que j'ai pas compris, c'est que le gouvernement a attendu depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui avant de faire cette affaire, ça me surprend.
Je crois que le président de la République croyait lui aussi en ces personnes qui peuvent changer avec lui le pays, mais c'est de la désolation totale.
Pour certains, face à la multiplication des cas de détournement et de corruption dans l'administration, il faut des audits des sociétés publiques.
La corruption a quintuplé au Bénin. Hein? Donc je ne sais pas si quelqu'un peut arriver d'un jour à l'autre pour supprimer. Mais pour le Bénin, là, c'est pire. On ne peut pas supprimer cette corruption-là.
En plus de l'audit dans les sociétés d'État, pour Marcus Kinivor, expert en audit et gestion des banques, il faut compter avec les médias.
Il faut libérer l'information au niveau des médias. Tant que les médias qui font des investigations n'auront pas un accès libre à l'information et qu'ils seront sous la poursuite de recettes de documents administratifs, la lutte contre la corruption ne peut pas marcher.
Aux dernières nouvelles, l'État a déjà réussi à récupérer plusieurs millions de francs CFA chez les agents de l'ANAT ayant détourné plus de 13 milliards de francs CFA. De Cotonou, Jeanette Le Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Direction Mali pour parler du service Orange, monnaie à Niamfouké, très utilisé par la population depuis la crise de 2021 avec la fermeture de structures de banques et caisses. Ce service attise aujourd'hui des arnaqueurs qui profitent de la naïveté et de l'ignorance de certains clients. Des cas d'arnaque et d'escroquerie se multiplient. Les agents de Niamfouké utilisent la radio locale pour sensibiliser les utilisateurs à ce phénomène. Les précisions de notre correspondant Sekou Maïga.
Le service Orange Monnaie résout pas mal de problèmes d'économie ici à Niamfouké, surtout depuis la crise de 2012 qui a occasionné le départ de certaines structures de caisses bancaires et même de trésoreries publiques. Ils s'utilisent pour certains au quotidien. Ali Djitunkara, client.
Je l'utilise souvent des fréquences mensuelles, quotidiennes, hebdomadaires. J'achète presque tous les services qui sont disponibles. Il s'agit de l'eau, l'électricité, le réabonnement de TV. Je me recharge mon compte moi-même. Bon, je fais le dépôt, je fais le retrait, je transfère aussi à d'autres.
Hamidou Traoré.
Vraiment, le service Orange Monnaie. Et depuis qu'il est en service, vraiment ça a reposé les gens au niveau des voyages et puis ça a fait aussi de l'emploi. Aujourd'hui, le service Orange Monnaie est devenu vraiment un service incontournable dans les activités économiques. Donc, moi, je l'utilise pour faire des dépôts, je l'utilise aussi pour faire des achats de crédit, je l'utilise pour faire des achats, pour payer les factures en eau, les factures d'électricité, pour faire les abonnements et aussi pour faire des achats par ligne.
Devenu tellement efficace et utilisé par toutes les catégories sociales, le service attise aujourd'hui des arnaqueurs et des escrocs. Cela, malgré toutes les mesures prises par Orange pour protéger ses clients. Diara Fadjalo, agent d'Orange Monnaie très respecté ici à Niamfouké.
Vraiment, ça c'est un grand problème dont nous, Orange Monnaie, on fait face. Parce qu'on ne peut pas faire Orange Monnaie sans connaître même les droits même du travail. Parce qu'on nous a formés à des principes qui sont là. Et vraiment, les agents doivent respecter ces principes-là. C'est la majeure partie de ces arnaqueurs, des gens qui connaissent même les clients. Ils font des recherches sur les clients et on revient, on t'arnaque. On sait qu'il y a une psychose qui existe actuellement. Les gens sont gourmands. Les gens veulent avoir l'argent facile. Ce n'est pas seulement au niveau des clients. Hein. Les agents Orange Monnaie, il faut qu'on se dise la vérité, de cesser d'arnaquer les gens. Sinon, on va dire leur nom. Hein.
Pourtant, il est difficile de tomber dans le piège de ces arnaqueurs. Alassane Traoré, service Orange, qui fait Orange Money ici à Niafunke.
Je suis un agent Orange Money, je fais l'Orange Money. En fait, avec les dépôts Orange Money, je crois qu'il n'y a pas de problème parce qu'on nous demande de mettre le numéro deux fois. La première fois, on donne pour le client, la deuxième fois aussi, on vérifie ensemble. Mais par cette manière, je ne crois pas qu'il y aura un problème d'erreur de dépôt ou d'arnaque par rapport à ça. Mais pour les arnaqueurs, moi, si quelqu'un vient faire un dépôt, je me demande de compter mon argent d'abord avant d'effectuer le dépôt.
Afin de rendre la tâche difficile à ces astres qui savent comment arnaquer leurs victimes, surtout à l'approche des fêtes où beaucoup de gens ont besoin d'argent, les agents Espace Orange multiplient les campagnes de sensibilisation à travers les radios de proximité. Véronique Niafunke, c'est Koumaïga.
Jacques Aristide avec vous au menu de Washington Forum ce jeudi, la énième crise politique en Tunisie. Le chef de l'État, Kais Saied, a limogé une partie du gouvernement, dont le Premier ministre, et a suspendu le Parlement dans la foulée de manifestations liées notamment à la pandémie de coronavirus. Les États-Unis se disent préoccupés et appellent au respect des principes démocratiques dans le pays. Pourquoi le chaos perdure-t-il en Tunisie plus de 10 ans après la révolution qui a conduit à la chute de Ben Ali? Comment le pays peut-il la sortir des multiples crises qui le branlent? Réactions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Ici aux États-Unis, les audiences ont commencé aujourd'hui, mardi, à la Chambre des représentants pour une commission restreinte enquêtant sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole à Washington. Steve Reddish revient sur la controverse politique qui l'entoure. Le récit est de Claire Mangezibou.
Les agents des forces de l'ordre qui ont défendu le Capitole seront les premiers à témoigner devant cette commission spéciale. Mais l'existence de ce comité ne fait que creuser le clivage politique entre les démocrates et les républicains. Norm Ornstein est politologue à l'American Enterprise Institute. Selon lui, une commission indépendante pourrait bénéficier de toutes les forces du Congrès et de la Maison-Blanche.
Elle aurait eu un éventail plus large de membres et très probablement pu se muscler davantage en termes de capacité à obtenir des témoins et des informations importantes là-bas.
Malgré l'obtention d'un accord sur presque toutes leurs demandes, les républicains du Sénat ont bloqué le vote pour une commission indépendante fin mai.
J'exhorte mes collègues à voter oui.
La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a ensuite proposé une commission restreinte d'enquête. Les républicains ont accusé les démocrates de vouloir un résultat prédéterminé, comme l'explique la républicaine Michelle Fischbach.
S'assurer que cela ne se reproduise plus nécessite une solution entièrement bipartite et non une commission partisane truquée dès le départ.
Avec 7 démocrates, Nancy Pelosi a nommé la républicaine Liz Cheney, qui a été évincée d'un important poste de son parti quand elle a remis en cause les allégations de l'ancien président Trump qu'on lui avait volé les élections de novembre. En tant que chef du parti minoritaire, le républicain Kevin McCarthy a été autorisé à sélectionner 5 membres de cette commission. Nancy Pelosi en a rejeté 2, Jim Jordan de l'Ohio et Jim Banks de l'Indiana. Le républicain Kevin McCarthy n'est pas ouvert à la négociation.
À moins que la présidente de la Chambre n'inverse le cours et ne siège les 5 républicains, nous ne participerons pas.
Nancy Pelosi a nommé un 2e républicain au panel. Adam Kinzinger et Liz Cheney ont été les seuls républicains à voter avec les démocrates pour créer la commission chargée d'enquêter sur l'attaque.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Lionel Lunanela Gahima, Joselle Morissin, Georges Léonard Sagno et Michel Claire-Joseph. À la présentation, vous étiez en compagnie d'Eric Manelakida. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine. We'll be right back.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.